Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. On va parler un peu de technologie, comme beaucoup, ça doit être important dans votre vie. Évidemment, chez les jeunes, on l'a appris la semaine dernière, il y a des études qui sont sorties, entre autres une enquête de la Santé publique de Montréal qui nous disait que chez les jeunes de 11 à 12 ans, donc les jeunes de sixième année du primaire, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup trop de jeunes qui regardaient trop d'écrans. 2 heures et plus d'écran. Par jour. Et donc, ça fait beaucoup à la fin de la semaine, beaucoup de jeunes qui passent du temps sur les réseaux sociaux à regarder la télévision, à regarder leur cellulaire, à pas dormir la nuit parce qu'on sait que la lumière bleue sur les écrans, c'est un facteur d'insomnie. Bref. Et puis, en même temps, en ce moment, je vous avoue, j'ai beaucoup de jeunes qui parlent de ça, qui parlent de l'emprise un peu que les réseaux sociaux ont sur leur vie, qui essayent de voir comment un peu se désintoxiquer numériquement. Hein, c'est à la mode, mais... Et c'est drôle parce que la semaine dernière, j'en regardais la vidéo du jeune comédien Thomas Delorme, le fils de Julie Perreault et de Sébastien Delorme, qui fait une espèce de sortie là-dessus. Il appelle ça technomutation. Il nous expliquait comment finalement la technologie avait pris une place importante dans nos vies. Voici un peu ce qu'en disait Thomas.
Je pense surtout que la technologie avait une utilité à la base, c'est rendre la vie des gens plus simple. Puis d'après moi, c'est vraiment super tout ce qui se passe en ce moment, mais je trouve qu'on utilise mal la technologie. Lorsqu'on a un objet technologique dans les mains, on est complètement déconnecté de la réalité. On est dans un monde virtuel où les réseaux sociaux, les jeux, puis toutes ces niaiseries-là sont notre principale attraction. On est rendu dépendant, puis c'est vraiment en train de nous envahir. Il faut arrêter de prendre des photos à chaque seconde de notre vie. Il faut arrêter de tout le temps partager notre vie privée sur les réseaux sociaux. Par exemple, si tu viens juste d'avoir un bébé, profite de tes premiers moments avec ce nouvel être humain-là parce que ça va juste arriver une fois. Attends pas à la première seconde que le bébé sorte du trou pour prendre une photo puis dire sur tous les réseaux sociaux « Hey, je viens d'avoir un bébé, hashtag vive la vie ». Faut apprendre à décrocher, vivre chaque moment au maximum. Prendre un petit moment chaque jour puis juste rien faire, décrocher de tout, plus penser à rien. Arrêtez de regarder des niaiseries avant de se coucher sur YouTube, puis regardez votre blonde ou votre chum dormir. Vous allez voir, c'est nettement plus amusant. Faites juste apprécier chaque moment que vous vivez. Ce sera peut-être la seule fois que vous allez vivre ça.
Alors voilà, c'est Thomas Delorme, mais j'essayais de voir aujourd'hui combien de vues il avait eu. La dernière fois que j'ai vérifié, il y en avait plusieurs dizaines de milliers. Ça a beaucoup intéressé notre public. Alors, on voulait en parler avec deux jeunes qui sont très branchés. Frédéric Dufort est comédienne. Elle a publié il n'y a pas très longtemps le livre « Fais-le pour toi », plein de conseils pour la jeune génération dont tu fais partie. Merci, Fred, d'être avec nous.
Merci à toi.
Nelly Brière est consultante en communication numérique. On est en Facebook Live, bien sûr, puisque Nelly est là. Merci d'être là. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de jeunes autour de moi qui sont un peu déprimés. Et j'ai un ami médecin qui me racontait qu'il en voit beaucoup de jeunes qui passent par son bureau puis qui disent « je suis déprimée », mais vraiment de la grosse déprime, là, de la dépression, qui ne mangent plus, qui ne dorment plus. Beaucoup d'insomnie chez les jeunes, ce qui finit aussi par affecter ta santé mentale. Et c'est la technologie qui est un des facteurs. Vous allez me dire, il n'y a pas que ça, c'est vrai. Mais la technologie prend tellement de place qu'on dirait qu'il n'y a plus de place pour le reste. Et les modèles, parfois, qui sont véhiculés deviennent des modèles tellement importants, tellement... Comment tu vois ça, toi, Fred?
Bien, c'est sûr que ces jeunes-là sont un peu nés dedans. Comme on parlait de dépendance, mais c'est comme de dire, moi, personnellement, j'en avais pas d'Internet. Fait qu'est-ce qu'à l'époque, j'étais dépendante un peu des CD-ROM. Mais oui, j'aimais ça, mais est-ce que j'allais jouer dehors? Oui, parce que les options qui s'offraient à moi étaient peut-être différentes. Fait que je trouve que c'est sûr que c'est peut-être difficile pour des jeunes aujourd'hui de dire, de voir autre chose parce que c'est ce qu'ils ont vécu très jeunes. On leur a peut-être donné une tablette ou un iPod puis les jeux étaient là-dessus. Fait que c'est de trouver justement comment faire un juste milieu puisque je trouve vraiment beau de Thomas. Et ce qu'il dit, c'est que ce jeune-là, il a 16 ans. Mm-hmm. Il fait même pas partie de la génération qui n'a pas connu exactement les réseaux sociaux, mais il a cette conscience-là. Donc, c'est juste d'en parler. Fait qu'autant avec les parents que les jeunes, c'est que justement, c'est d'avoir un juste milieu, c'est de la modération comme dans tout.
Oui. Nelly?
Ben oui, ben en fait, à mon avis, on est en train de créer une culture d'utilisation des médias sociaux puis du numérique. Ça va très vite et puis ça arrive dans nos vies sans que ce soit vraiment géré. Il y a toute une génération qui a une façon de l'utiliser, puis une nouvelle génération qui a une autre façon de l'utiliser en plus. Alors, on comprend pas nécessairement ce qui fait quoi là-dessus, puis qu'est-ce qui est une problématique ou pas. Est-ce que le jeune est déprimé parce qu'il est dans un cercle vicieux de boucle de dépendance avec des petits jeux en ligne où il est plus capable de s'arrêter?
Je pense que c'est beaucoup lié aux images qui sont renvoyées.
Ou est-ce que c'est un problème d'image, d'estime de soi parce que la pression est très forte? Ou, puis à mon avis, c'était déjà à présent avec la télé là, à mon époque, ou est-ce qu'il y a des enjeux sociaux qui passent par le numérique puis qu'on a tendance à mettre ça sur le dos du numérique?
Comme
par exemple, un jeune qui serait dépendant au like. Je vais donner cet exemple-là qui m'est souvent mis sur la table. Un like, là, c'est une valorisation sociale. C'est quelqu'un qui rit de ta blague, qui donne une table dans le dos, qui dit t'es bon, t'es beau, t'es capable. Okay? Ça veut dire ça aussi. Puis peut-être que quand t'es dans un milieu de vie où t'en as pas de valorisation dans le réel, tu vas avoir tendance à y accorder trop d'importance à ce like virtuel-là. Alors la problématique, c'est pas d'être dépendant au like à cause que Facebook existe. C'est peut-être parce qu'il manque de like réel. Et c'est pas une Facebook le problème, c'est un miroir de notre peut-être de comment on est organisé, quelle est notre culture justement, est-ce qu'on se valorise assez entre nous, est-ce qu'on a assez d'interactions positives avec nos jeunes. Et moi j'observe aussi qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau du dialogue intergénérationnel qui n'aide pas. Le jeune est un peu laissé tout seul là à s'organiser dans sa vie numérique parce que sa façon de l'utiliser n'a rien à voir avec la façon
celle de
leurs parents, et là il y a comme pas de pont. Et en plus de ça, ben ils se font vite dire qu'ils sont paresseux s'ils jouent trop à des jeux, ou qu'ils sont narcissiques s'ils font des selfies, ou qu'il y a un problème de cyberdépendance. Et ça, pour moi, c'est un facteur beaucoup plus important que la trop grande présence du numérique, à mon avis.
Ouais, intéressant.
Ça, c'est vrai au niveau du narcissisme. T'sais, moi, je suis un peu partie de cette génération-là où on dit souvent qu'on est, ben, on fait des égo-portraits, donc on est égocentrique. Puis au contraire, je parle tellement aux jeunes, puis malheureusement, on est la génération peut-être qui se regarde le plus et se compare constamment et s'analyse constamment, ouais, mais s'aime le moins. Parce que justement, on est tout le temps en train de se confronter à notre image ou à celle des autres, parce que c'est ce qui est à la mode, oui, mais c'est aussi ce qui est offert à nous. C'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle façon de fonctionner. C'est même au niveau du travail. Maintenant, on me demande c'est quoi mon fanbase. Je reste comédienne, je reste auteure, mais on me demande quand même, mais est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? Est-ce que tu es assez présente sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux nous apporter quelque chose de plus avec ton image? Donc, c'est de dire, c'est la société au complet. C'est pas juste les jeunes, au contraire. Moi, je pense que même les adultes, Thomas le disait dans son vidéo.
Mais ça, c'est juste pour vendre des affaires qu'on te demande ça?
Ben, pas nécessairement, mais pour vendre, oui, mais aussi pour dire, est-ce que tu vas attirer un intérêt de plus parce que tes propos vont être intéressants? Donc, même mes propos peuvent être jugés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est dire, c'est pas juste en tant que jeune, ou même en tant que jeune adulte, c'est juste qu'il faut tout le temps être en train de se démarquer. Puis aujourd'hui, c'est ça le problème, je pense, c'est qu'il reste 1%. T'sais, avant, on pouvait se démarquer à l'école ou comme... peu importe, mais aujourd'hui, à 15-16 ans, ben, ils ont la possibilité de devenir YouTuber, ils ont la possibilité de se faire une image, de créer quelque chose de gros pour eux-mêmes qui devient un travail, qui devient des objectifs de vie, mais très jeunes, parce qu'ils y ont accès.
Donc, moi, j'ai beaucoup aimé hier le commentaire de Magali Blondeau qui disait, la comédienne qui a gagné donc personnalité féminine, puis qui disait, Magali Lépine Blondeau, puis qui disait qu'elle avait pas été populaire quand elle était petite, que ado était pas populaire, puis même adulte était pas si populaire que ça. Bon, sur la dernier bout, elle est quand même choisie personnalité, donc ça a beaucoup compensé dernièrement, mais elle disait, dans le fond, garde tes valeurs. Elle parlait aux jeunes, puis je trouvais ça super important qu'une jeune femme comme ça dise aux autres, parce que c'est y a beaucoup de filles qui se retrouvent là-dedans, là, beaucoup de gars aussi sans doute, de jeunes garçons, qui se retrouvent dans le fait d'être eux-mêmes versus être une image qu'on veut t'imposer. Tu sais, quand on te dit, Fred, c'est quoi ta fanbase? On dit, c'est comme si on te disait combien t'as d'amis, mais est-ce que c'est vraiment des amis?
Et c'est là que je pense que le message est tellement important. Puis c'est surtout de le dire, premièrement, oui, aux jeunes parce qu'ils sont là-dedans, mais à tout le monde. T'sais, au final, ce que tu es à l'extérieur de ces réseaux sociaux-là, c'est là que c'est important. Puis si tu bases vraiment ton amour propre sur l'amour que les autres peuvent te donner, surtout dans les écoles, quand je dis, exemple, ta photo de profil, c'est bien beau d'avoir 20 000 amis qui t'ont aidé à la choisir, hashtag Swat Goals, puis tout ça, mais si justement, quand tu arrives dans la vie et tu as un problème, tu es prêt à te retourner vers personne parce que ces personnes-là sont pas là pour toi, sont là juste dans les bons moments. Fait que, d'où l'importance, c'est pas les réseaux sociaux, là, c'est de choisir les bonnes personnes pour t'entourer. Mais c'est de donner ces valeurs-là.
Ben, c'est d'avoir un équilibre, en fait, entre le réel et le virtuel. Puis ne pas sombrer que dans le virtuel, mais ne pas s'en déconnecter non plus. Parce qu'on va se le dire, pour cette génération-là, c'est quand même un vecteur important pour socialiser. Puis je pense, entre autres, s'il y a un intérêt pour sa fanbase ici, c'est aussi parce qu'on essaie de rejoindre des jeunes qui ne sont que sur le web et qui ne consultent, qui écoutent beaucoup de YouTubers, etc. Fait que là, souvent, l'industrie essaie de toucher de nouvelles ouais. générations avec ses fanbases. Fait que là, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais moi, je voudrais juste simplement dire que...
Moi, pourquoi je dis que ça me fait rire, c'est qu'on essaie, on n'arrête pas de... Oui, on veut toucher les jeunes. Quand on dit « on », c'est les marketeurs, puis les publicitaires, puis les marques.
Oui. Quand on veut vendre
même, même les réseaux de télé disent « nous sommes la télévision numéro un des milléniaux ». C'est parce qu'un millénial, en partant, il y a comme 30 ans et moins. Qui paye, pensez-vous? Moi, si je pose la question, là, tous les parents vont appeler pour dire « un instant, là, moi, mon jeune de 22, c'est moi qui paye pour lui. »
Exactement. «
Mon jeune de 18, il n'y a pas une scène, c'est moi qui paye. »
Quand ils partent en appartement...
C'est pas aux milléniaux, le monde, qu'il faut vendre des affaires. C'est aux parents des milléniaux. C'est à eux, c'est à nous qu'il faut parler. Puis c'est nous que vous devriez beurrer en masse de toutes vos... Parce que c'est nous qui finissons par faire des choix et surtout des chèques. C'est ça, la fin.
Mais c'est parce qu'on regarde encore l'audience. L'audience a une importante pour vendre des produits. C'est ça qu'ils regardent en bout de ligne. Fait que là, c'est la course à la popularité. Mais ça, c'est dans le monde de la vie publique. Puis l'affaire, c'est que la vie publique semble accessible avec l'arrivée du numérique. Hein. N'importe quel, moi, je vous dis, là, un pourcentage assez énorme, je donne des formations à des familles et des jeunes, puis quand je demande dans la salle, je les fais mix aux enfants, qui veut devenir YouTuber? Tout le monde lève la main, là, c'est incroyable. Là. Puis il y en a un petit marginal, peut-être, qui va dire « Ah, pas moi! » Mais en général, ils veulent tous l'être.
Et pourquoi?
Parce qu'ils ont l'impression que ça leur est accessible, que c'est facile, qu'ils ont juste à prendre leur téléphone parce que...
Et qu'ils peuvent faire de l'argent.
Exact, parce que
ça,
la configuration... Oui, exact. Exactement, parce que la configuration de ces YouTubers-là donne l'impression que c'est fait sur le spot, alors que c'est monté pour avoir l'air de ça. Je veux dire, un travail professionnel qui est fait en l'air de ça. Et ils sont souvent très riches, tu sais, les YouTubers les plus suivis, Squeezie, Madiba, pour ici au Québec, ça, ils font beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de vues, puis il n'y a pas encore une compétition qui est super développée ici au Québec particulièrement. Mm-hmm. Puis c'est vrai qu'il va y avoir de la place pour des jeunes YouTubers, mais ça se fait pas instantanément. Et moi, je trouve que c'est un... On manque une occasion d'intéresser un jeune à développer des compétences super intéressantes. Au niveau, ne serait-ce que du montage, de la réalisation, de faire de la recherche de contenu, etc. Puis plutôt que de le laisser faire des niaiseries puis de se préoccuper de son image, de plutôt le retourner en lui disant « Hey, écoute, si tu veux faire ça, faut que tu développes ces compétences-là. » Puis qu'il puisse en acquérir quelque chose de positif plutôt que d'être stressé puis d'avoir l'impression que ça marche pas parce qu'il a pris son téléphone puis a essayé 2-3 fois puis c'est un flop. Parce qu'il
Mais après, c'est quoi le but? T'as envie de dire, c'est quoi le but? Est-ce que c'est de montrer... Parce que on regarde comme là, en ce moment, je regarde Pierre-Luc Loutier qui nous fait part de son déménagement. Il vient de déménager, il s'est acheté un condo. Là. Je me dis, OK, ben oui, c'est intéressant peut-être pour les gens qui déménagent, puis il est drôle, tu sais, ben... Mais c'est quoi le but?
S'identifier à quelqu'un.
Ben,
énormément de s'identifier à quelqu'un qui nous inspire, oui, mais qui nous permet peut-être de voir plus grand que justement le petit écran.
En fais-tu, toi,
Non, moi, j'ai pas embarqué. J'ai des amis, pourtant, qui sont YouTubers, mais on dirait que moi, j'ai besoin d'être ancrée dans le réel. Moi, c'est ça, passer trop de temps comme à me filmer personnellement, j'aurais pas
de
patience.
Ouais.
En fait, je passais déjà à la télévision, donc le regard sur ma personne, je l'ai depuis que je suis adolescente. Je l'ai eu différemment parce que c'était pas à travers les réseaux sociaux. Je l'ai eu à travers le fait que des DVD, quand j'avais 13 ans dans Tactique, ben, ils sont encore disponibles. Puis je fais, oh, OK, moi, normalement, les photos, je les aurais peut-être pas ressorties, mais tout le monde y a accès. Mais je pense que c'est le besoin, justement, l'arrivée de la technologie qui est une nouvelle chose, qui fait que c'est comme ça qu'on s'identifie aux autres. T'sais, avant, c'était les magazines. Moi, je me rappelle, les cours à l'école, ils nous disaient, on s'identifiait aux magazines, aux photos, au cinéma, à la télé. Mais maintenant, c'est s'identifier à des gens qui t'offrent une vue sur leur vie, un peu.
Fausse vie.
Ben, il y a un besoin. Fausse ou non?
Leur
pense...
vie
rêvée, disons, amplifiée, photoshopée.
Oui, photoshopée. Mais ça dépend à qui. Il y a des YouTubers qui vont dans le moins arrangé. Là, si vous dites Lisanne Nadeau, par exemple, elle est pas dans le, c'est pas très léché son affaire. Elle va justement dans des choses un petit peu plus vraies. Mais tu sais, c'est comme à la télé, là, dépendamment de la chaîne que vous allez écouter, il y a des chaînes qui sont très superficielles, puis il y a des chaînes qui sont très élaborées. Bon, on n'est peut-être pas encore tout à fait, on n'a pas une grande diversité de contenu sur le numérique autant de contenu riche, veux-je dire, mais ça s'en vient, puis il y en a quand même quelques-uns. Puis le ratio est probablement le même qu'à la télévision, là. Moi, quand j'ai plus la télé, mais quand je suis dans un hôtel, par exemple, puis que je me promène sur les postes de télé, des contenus intéressants qui sont pas justement dans la superficialité, j'en vois pas tant que ça. Puis il y a beaucoup de téléromans aussi que, bon, c'est quoi le but, là? Je trouve ça plus palpitant de suivre Pierre-Luc qui magasine son condo, finalement.
Mais il est drôle,
que, oui, parce que quand même...
Mais tu sais, moi, je vois beaucoup de jeunes filles en ce moment qui regardent la vie de Gigi Hadid, de Kylie Jenner, de Kim Kardashian, puis qui disent « Oh mon Dieu, que ma vie est plate et que je suis donc laide. » Puis t'as beau dire, comme parent, t'as beau dire « Ben non, t'es belle, je t'aime. » Les parents, on dirait, il y en a qui m'écrivent, qui me disent « Moi, mon enfant, il y en a plein de likes de sa famille. »
Oui.
Mais c'est comme pas suffisant.
Mais puis ça, c'est l'évolution. T'sais, en tant qu'adolescent, on va se chercher, on va se poser des questions, on va se remettre en question. Puis en plus, on se compare, puis on a accès à des gens auxquels on n'avait pas accès avant, puis à leur vie. Puis je pense que c'est normal de se remettre en question puis se juger. C'est sûr que là, c'est plus présent, puis c'est plus facile de sombrer là-dedans parce que justement, c'est accessible, c'est au bout de nos doigts. Mais... en même temps, on a tous nos erreurs à faire en tant qu'adolescent. Puis la comparaison, elle était là à l'école. Moi, j'avais MSN quand j'avais 13 ans. C'était au début.
Drôle,
puis mes amis étaient tous plus vieux, fait que j'étais pas dans la technologie. Mais est-ce qu'il y a eu des petits commentaires négatifs à mon égard qui m'ont fait excessivement de peine à cet âge-là? Pourtant, c'était pas encore l'ampleur de la technologie. Mais je pense que chaque génération a ses problèmes, a ses questionnements. Justement, donc de dire que... oui, on est très présent sur les réseaux sociaux, mais je pense pas que c'est nécessairement une dépendance. Je pense que c'est juste parce que c'est là, c'est accessible. Tout comme la prochaine génération, on va peut-être avoir d'autres choses.
Exact. Puis il faut faire attention aussi parce
que
la
période...
moi, je
pense qu'il y a beaucoup de gens qui se parlent pas à cause de ça.
Mais il y a la période de l'adolescence et aussi, il y a des éléments qui sont amplifiés. Je me rappelle, à cette époque-là, là, la socialisation puis la séduction, c'est nouveau puis ça peut prendre beaucoup, beaucoup de place. Il faut pas penser que c'est le numérique. Il y a aussi l'expression d'un stade de vie, d'une époque de vie à travers le numérique.
Ouais.
Et moi, je pense que c'est d'établir un dialogue puis de développer un équilibre. Moi, souvent, dans les conférences que je donne, je me rends compte que les adultes ne sont pas mieux au niveau d'utilisation du numérique.
Mais non, j'allais dire, on est aussi, il y en a qui sont très...
Thomas
le dit
dans sa vidéo.
Oui, oui. Ouais, ouais.
C'est surtout la génération de ma mère que ça y prend 2 minutes avant de me répondre.
Ouais, c'est toujours attends 2 minutes. Ouais.
Parce qu'elle est sur son téléphone, tu sais. Fait que c'est d'ouvrir le dialogue pour comprendre qui fait quoi sur le téléphone, puis peut-être se dire il y a une partie du dialogue qui se fait dans le réel, puis l'autre partie elle peut se faire à travers le texto, parce que j'ai vu beaucoup de relations enfants-parents adolescents se régler avec des textos parce que c'était
difficile. Ou sur WhatsApp, c'est le fun WhatsApp aussi.
Oui, WhatsApp, Snapchat. Ouais. Puis c'est de faire une espèce d'équilibre entre les deux. Mais ça c'est à l'adulte de gérer ça, mais déjà faudrait qu'il se gère lui-même.
Ouais. À un moment donné, tu peux plus gérer ton ado trop. Il faut que tu sois très compréhensif.
Je pense qu'on fait tous de notre mieux aussi.
On va revenir avec vos commentaires. J'espère que vous en avez sur cette question-là, où on regarde un peu comment nos jeunes fonctionnent avec la technologie. Puis on pourrait se poser la question, il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle dans les écoles, c'est bien dommage, on le dit chaque fois. Mais en même temps, on pourrait se poser la question, comment ça fait qu'il n'y a pas de cours non plus d'éthique avec le numérique? Pourquoi on ne montre pas? Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des cours même pour les parents. Bon, il y a Nelly Brière, mais c'est bien que tu ailles dans certaines écoles faire des cours, mais il devrait avoir des cours au primaire. Comment gérer la technologie? Il y a de la robotique pour les bolés, mais tu sais, pour tous les jeunes, là, pour qu'ils puissent grandir avec cette... parce que c'est pas fait pour s'en aller, cette affaire-là. Ça va rester. 514-790-9850 1-866-790-9850. Vous nous dites si vous en connaissez des jeunes qui dépriment parce qu'ils sont trop branchés. À tout de suite, tout le monde. Bonjour, Caroline. Est-ce que vous pensez que nos jeunes sont trop dépendants aux réseaux sociaux puis que ça finit par avoir une incidence sur leur santé mentale?
Oui, vraiment. Moi, j'ai mon fils de 8 ans qui était sur les écrans. Je contrôlais pas le temps. Donc, il était tout le temps là-dessus. Puis, l'école me dit, écoutez, votre enfant est TDA. J'ai dit, OK. Fait que je l'ai fait, j'ai rencontré son médecin de famille pour avoir l'évaluation et son médecin a dit, ton enfant n'est pas TDA, il passe trop de temps sur les écrans. Donc, c'est 1 heure par soir la semaine, puis 2 heures maintenant d'écran, tout confondu la fin de semaine. Puis, il n'est pas TDA, mon garçon. Ça a été le jour et la nuit. Le changement a été drastique. Maintenant, la concentration à l'école, elle est là. Il est plus agressif. C'est vraiment hallucinant à quel point ça l'a changé nos vies.
Et il a accepté facilement, vous diriez, Caroline, de changer d'habitude, oui?
parce que ça venait du médecin, puis le médecin lui a bien expliqué que c'était dangereux pour son cerveau, puis que les médecins sont inquiets du futur à cause des écrans, vraiment à cause de la stimulation que ça crée aux enfants. Et oui, il a accepté.
Ben, je parlais du médecin là, que je connais bien, qui me disait, lui, que pour tous les jeunes qui voient, c'est pour ça un peu que je fais ce sujet-là ce matin, c'est parce qu'on avait une conversation, puis il m'a dit, c'est fou, le nombre de jeunes qui passent dans mon bureau, puis qui me parlent de ça, puis on finit par avoir, il m'expliquait qu'il leur donne certains devoirs, comme se déconnecter, genre, arrête de suivre telle personne, il demande, par exemple, aux jeunes, qui est-ce que tu suis le plus sur les réseaux sociaux? Puis là, selon que ça soit un gars, une fille, il va avoir toutes sortes de noms. Il va dire, OK, mais je vais te donner comme devoir, déconnecte-toi de quelle personne, là, tu dirais, là, c'est ton modèle. Puis ça, il va les encourager, ces jeunes-là, à se déconnecter de ces modèles-là en leur disant, regarde, telle fille, là, a pas l'air de ça dans la vraie vie. Là. Le savais-tu, ça? Puis, sincèrement, ça améliore la santé mentale du jeune. C'est exactement ce que Caroline décrit. Nelly Brière?
Ben oui, effectivement. Mais ça, moi, je vois plus un problème de parents, à la limite, que de technologie. Parce
pourquoi?
Il faut que tu le gères, ton enfant. Tu peux pas le laisser être tout le temps sur des écrans. En bas de 10 ans, là, ça m'apparaît très périlleux de laisser ton enfant toute seule à de grandes périodes comme ça sur des écrans. Puis
en même temps, tu sais, on fait encore croire, moi, je sais pas comment ça marche dans les familles des autres, mais je veux dire, tu sais, l'histoire de dire, tu mettras ton ordinateur de table centrale dans la pièce commune. Voyons donc.
Ben non, ça, c'est sûr.
C'était en 1990.
Ça, c'est sûr que ça marche pas. Mais c'est de mettre une limite de temps, comme elles viennent de parler. Ouais. D'avoir une limite, de se dire, OK, ben c'est pas plus que tant de temps, puis de le respecter. Puis ça, en même temps, ça peut vous aider à vous-même, vous autogérer avec votre rapport aux écrans, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi privilégier des moments où ça se passe en famille pour avoir un dialogue devant ce que vous consommez, puis vous intéresser à ce que le jeune va consommer. Parce qu'il y a des trucs qui sont carrément créés pour générer des boucles de dépendance. Par exemple, sur YouTube, sur YouTube, il y a même un système clickbait qui est fait pour générer des clics. Vous allez y reconnaître tout de suite ce que c'est, là, les parents qui ont vu ça. C'est souvent des espèces de petites vidéos qui n'ont pas de bon sens, avec des super-héros, avec des musiques infernales. Puis c'est des espèces de boucles. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment juste des images et une toune répétitive. Et c'est généré pour créer une espèce de boucle de dépendance où l'enfant va vouloir revoir ça en ne faisant aucun apprentissage parce qu'il n'y a pas de contenu.
Ouais.
Et tout ça, c'est pour augmenter les views sur YouTube et faire de l'argent avec la publicité. Okay? Alors là, on nuit directement à ce temps-là qui pourrait être investi à au moins écouter des YouTubers ou des contenus plus pertinents. Il y en a plein qui sont produits par Télé-Québec, etc. Alors ça, c'est à gérer aussi, non seulement le temps d'écran, mais à quoi le jeune va être exposé. Mais aussi, il y a un dialogue à avoir parce que tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est pas à 14 ans que tu vas tout à coup débarquer pour avoir ce dialogue-là. Ça se prépare en amont.
Ouais.
Ils sont sur YouTube avant 10 ans.
Il faudrait qu'il y ait des cours dans les écoles.
Oui, tout à fait. Puis là, le psychologue fait la job de tout le monde, fait la job du parent, fait la job de l'enseignant, parce qu'ils sont pas outillés. Parce que le parent est dépourvu. Puis là, c'est pas vous êtes pas bons, les parents. Vous êtes dépourvus. Vous savez pas comment gérer ça.
C'est ça.
Puis souvent, ça devient en plus un super aide quand on est seul, qu'on a une transition. Donc, voilà.
On a Éric avec nous. Bonjour, Éric.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Moi, c'était spécial. J'ai un garçon de 16 ans qui, dans les débuts de l'adolescence, a commencé avec les fameuses PlayStation, puis tout ça. Après ça, il a tombé sur un ordinateur qui jouait à des jeux en ligne, des YouTube, puis peut-être 2 mois que mon fils m'a appelé pour me dire qu'il avait vendu tout son matériel informatique. Il s'est acheté un petit lapin avec ça. Il a commencé à prendre soin du petit lapin, puis tranquillement, lui, il a sorti de sa chambre. Il est enfermé continuellement. Je ne pouvais pas lui parler. C'était de l'agressivité, puis tout ça. Puis on le voyait pas, mon garçon. Il venait pas manger à la table avec nous.
Okay.
C'était constamment dans sa chambre.
Et vous alliez pas le chercher pour lui dire « Viens manger avec nous »
Oui, on allait le chercher, effectivement, mais c'est qu'à un moment donné, on devient... Ça devient, comme je vous dis, il devient agressif, puis tout ça. Il est tellement ancré dans ces choses. On l'a enlevé, on l'a éteindu, on a tout fait avec lui. Mais à un moment donné, je me suis dit peut-être bien qu'il va déjammer de ça, puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. Puis tu vois, depuis que le printemps est arrivé, on le voit plus. Autant qu'il était dans sa chambre, autant que maintenant, il s'en va en vélo avec ses amis. Il prend de l'air, puis tout ça. Fait que je pense que oui, la réalité, c'est que ces fameux écrans-là, ouais, peu importe tout ce que tu vois sur Internet ou sur les jeux en ligne, il y en a tellement.
Ah, ouais, ouais.
Ça devient dommage. Surtout que pour les enfants qui ont été détectés TDAH et ouais, ces choses-là, mm-hmm, ils recherchent ces bidules-là, si on veut, pour...
Puis il y a quand même une incidence. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive à se poser des questions importantes. T'sais, on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes. En fait, on parle beaucoup. Moi, j'en parle beaucoup. On devrait en parler plus. Moi, ça me préoccupe effectivement. Je pense que Alexandre Taillefer, cette année, le printemps dernier, cet hiver, nous a tous touchés avec le documentaire Bye, où on voyait qu'il y avait des jeunes qui mettaient beaucoup trop d'heures à jouer aux jeux vidéo, puis que ça finissait par un peu ce que nous disait Eric, à les isoler complètement, puis à trop être isolé. Tu peux être complètement déconnecté de ta vie aussi. Au-delà de la réalité, c'est ta vie aussi.
Mais je pense qu'une belle chose qu'Eric a dit, par exemple, c'est qu'il parlait de son fils qui avait tout vendu pour justement se trouver d'autres hobbies. Donc, c'est ouais, de proposer d'autres choses.
Ouais.
Tu sais, moi, hier, on parlait, Nelly et moi, tantôt, on allait faire du vélo. Moi, je faisais du vélo et je voyais les jeunes dehors avec des cerfs-volants, avec leur ouais, famille. Mm-hmm. Je fais, ben, c'est parce que justement, il y a quelqu'un qui a dit, hey, est-ce qu'on va dehors
ouais,
en gang?
Ouais.
Est-ce qu'on le propose? Je pense que c'est ça, c'est de trouver justement, oui, les réseaux sociaux ou la technologie fait partie de notre vie, mais si on trouve d'autres choses, justement, dire aller faire du vélo, aller dehors, il fait beau, on en profite, on va se baigner, on va au parc, on, ouais, tu sais, c'est justement de proposer
le
ça.
Le problème, c'est que 6 mois dans l'année, on peut pas faire ce que tu viens de dire, à moins d'aller jouer dans la neige, on peut aussi
aller,
faire jouer
du ski, ben du oui, patin. Il y a plein ouais, de hobbies qui c'est sont sûr, aussi, même s'il fait frette.
C'est sûr. Faut tout le monde qui a les moyens de faire du ski, mais.
Mais faut s'imposer ça à un moment donné. Même moi, je fais ça. Ouais. Je vis dans le numérique, c'est mon métier, là. Ouais. Puis je me suis imposé des hobbies, là. Je fais de l'observation d'oiseaux, du vélo, etc. Mm-hmm. Qui me sortent et qui m'obligent à être très ancrée dans le réel et même dans la lenteur, dans mon cas, pour justement changer d'état mental. Mm. Parce que ça prend un équilibre. Mm. Donc,
je pense que si ça vient du parent aussi, il y a un beau rapprochement qui peut avoir lieu. Tu sais, dire, hey, on laisse nos téléphones, les deux, on s'en va jaser ouais, dehors. Puis on va relaxer, puis c'est sûr pour un adolescent, ça va dire, oh, je m'en vais jaser avec mes parents. Ben moi, personnellement, à 16, 17 ans, il y a des moments où avec mes parents, ça allait vraiment pas bien, puis on dit, hey, on déconnecte, on s'en va une fin de semaine ou on s'en va à vélo, justement, on fait d'autres choses ouais, ensemble, mais ça nous rapproche.
Ouais.
Fait que même de dire, hey, avec tes amis, tu sais-tu telle information ou tu le connais-tu vraiment? Poser des questions. Puis là, tout d'un coup, hop, ben, ce qui est écrit sur son profil Facebook, c'est pas...
Ouais. 9-1, c'est 911, chemin Copenhague. C'est une alerte Amber. Désolée pour la surprise, mais c'est important de faire passer ce message. Merci beaucoup à mes invités. On retient tes bons conseils, Frédéric. Fred, pour
oui,
les intimes. Et ça ne dérange
veut,
pas.
Oh non, au contraire.
Merci beaucoup, Nelly Brière. Merci à toutes les deux. Tout de suite, après la pause, je reçois un dragon entrepreneur. Étienne Borja est avec nous. Restez là, tout le monde.